Bienvenue dans l'épisode 10 de OCO Broadcast. Je suis Laurent Sanssouci, directeur au sein d'OCO Global en charge de l'Europe du Sud, et j'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Susumu Kataoka, directeur général du GETRO Paris, l'agence japonaise pour le commerce extérieur et l'investissement international. Le Japon est un acteur majeur de l'économie mondiale. Le Japon se situe à la troisième place en termes de produit intérieur brut avec un PIB de près de 5 000 milliards de dollars en 2019. Le Japon se classe également au sixième rang mondial en termes d'investissement direct à l'étranger, mais il est en revanche historiquement un pays où l'investissement direct étranger en entrée est relativement modeste, même s'il est en hausse significative sur la dernière décennie. Nous sommes donc très heureux de recevoir M. Kataoka aujourd'hui pour discuter du Japon aujourd'hui et merci encore d'avoir accepté notre invitation. La crise sanitaire récente, conséquence de la COVID-19, a récemment bouleversé les systèmes de santé à travers le monde, mais malgré sa proximité avec l'épicentre du virus, le taux de mortalité lié au coronavirus au Japon est l'un des plus bas au monde. Comment expliquez-vous cette résilience ?
Bien, c'est un mystère même pour nous. Les épidémiologistes japonais avancent plusieurs hypothèses pour expliquer cette mystérieuse résilience du Japon qui a enregistré moins de 1000 morts. La culture du port du masque, de l'hygiène des mains, le taux élevé des vaccinations BCG, le vaccin contre la tuberculose, qui semble induire une meilleure immunité face au Covid, ou même la culture culinaire, dans laquelle le natto, un produit de soja fermenté, est très présent et apprécié pour ses bienfaits immunitaires. Et puis, il ne faut probablement pas oublier le civisme des Japonais. Après l'annonce de l'état d'urgence en début avril, les Japonais ont accepté de rester chez eux de manière volontaire, sans contrainte légale. Il y a en outre ceux et celles qui disent que la politique du gouvernement, centrée sur les clusters pour casser les chaînes de transmission du virus, s'est révélée efficace. La résilience des Japonais pourrait probablement s'expliquer par une combinaison des facteurs que je viens d'évoquer, mais il faut quand même attendre le résultat des recherches sur ce point.
Merci. Du fait des mesures de confinement et des fermetures de frontières, les plus grandes économies du monde ont été fortement touchées par le COVID-19 ou COVID-19 en français, et des événements majeurs ont dû être annulés. Tokyo, notamment, devait accueillir les Jeux Olympiques d'été. Cela aurait été d'ailleurs la deuxième fois depuis 1964. Ils se tiendront désormais l'année prochaine, en août 2020. Quelles en sont les répercussions, en fait, de cette décision ?
Oui, la tenue des Jeux Olympiques en 2021 n'est pas encore bien garantie, car l'épidémie se propage encore dans de nombreuses parties du monde. Je ne peux donc pas répondre à cette question à ce stade, mais une chose est sûre, et sur le plan budgétaire, compte tenu du coût supplémentaire engendré par le report des Jeux et de la capacité réduite d'accueil des visiteurs dans le respect de la distanciation sociale, le COVID-19 aura des conséquences financières non négligeables pour l'organisateur des Jeux. J'espère donc qu'un vaccin efficace pourra être mis au point au plus vite.
Plus généralement, quel a été l'impact du COVID-19 sur l'économie japonaise et quelles mesures ont été mises en place par le gouvernement pour assister, aider les entreprises dans cette période ?
Le Japon a connu une croissance négative de 2,2% en rythme annualisé au cours du premier trimestre 2020. Le Japon paraît donc mieux résister à la crise de COVID-19 que la France, qui a enregistré à la même période une croissance négative de 5,3%. Cependant, il faut bien tenir compte du fait que l'économie japonaise avait déjà reculé de 7,1% au cours du dernier trimestre 2019, du fait à la fois du passage de la TVA de 8% à 10% en octobre dernier et de l'incertitude qui plane sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Et face à cette situation inédite, le gouvernement japonais a adopté deux plans de relance très généraux d'à peu près 2 000 milliards d'euros, soit 40% du PIB national. La France a voté son plan de relance qui s'élève à 20% de son PIB. Vous pouvez donc imaginer l'ampleur exceptionnelle des mesures prises par le Japon. À l'instar des mesures prises par la France, chômage partiel pré-garanti par l'État, le fonds de solidarité, l'action du gouvernement japonais a été très similaire. Mais la mesure la plus emblématique a été la distribution d'une prime de 100 000 yens accordée à chaque habitant du Japon, sans plafond de revenus ni distinction d'âge ou de nationalité, ceci bien sûr pour stimuler la consommation. Et une autre mesure phare a été adoptée dans le deuxième budget rectificatif. Il s'agit d'une subvention pour financer les charges de loyer. Et vous voyez donc combien le gouvernement japonais est déterminé pour soutenir l'économie.
Effectivement. Selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale, le Japon se classe aujourd'hui à la 29e place sur 190 pays en termes d'attractivité et de compétitivité économique, alors qu'en 2019, il était classé au 39e rang. Comment expliquez-vous cette progression ?
En fait, le gouvernement s'est fixé l'objectif en 2013 de se classer parmi les top 3 des 35 pays membres de l'OCDE avant 2020 dans le classement de la Banque mondiale. Et l'édition 2020 du rapport Doing Business de la Banque mondiale que vous avez cité a classé le Japon au 18e rang sur les 35 membres de l'OCDE et 29e sur 190 pays. Ce résultat est bien loin de l'ambition du Japon et le gouvernement est donc déterminé à améliorer l'environnement des affaires au Japon, notamment par la simplification administrative des démarches de création de sociétés. En fait, une procédure en ligne est désormais envisagée, ainsi que de la procédure de registre foncier, etc. Une amélioration significative est d'ailleurs constatée sur certains volets, comme l'obtention des permis de construire, l'accès au réseau électrique ou la procédure de sauvegarde judiciaire. Ces différentes améliorations sont à l'origine de la progression que connaît le Japon dans l'édition 2020.
Le Japon est un des leaders mondiaux dans le secteur des hautes technologies et de la recherche et développement. Comment expliquez-vous la prédominance du Japon dans ces secteurs et quelles sont les principales caractéristiques de l'écosystème japonais ?
Oui, en fait, au Japon, les grands groupes japonais, afin de damer le pion à leur concurrence sur le marché domestique, se procurent traditionnellement les technologies dont ils ont besoin au sein même de leur groupe. Ce principe dit d'autosuffisance en technologie est depuis longtemps considéré comme une source de compétitivité des entreprises japonaises. La myriade de PME innovantes nouant souvent des liens privilégiés avec la grande donneur d'ordre travaille en concertation avec eux pour la mise au point de la nouvelle technologie. Je dirais que l'écosystème qui porte l'innovation technologique au Japon a été créé autour des grands groupes. Aujourd'hui, c'est vrai que les grandes entreprises sont toujours au cœur de l'écosystème, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont bien compris que pour s'adapter au rythme d'innovation de plus en plus rapide, elles doivent s'éloigner du principe d'autosuffisance en technologie. Elles sont ainsi en train de réformer leur mode de gestion organisationnelle dit fermé vers des modèles de gestion plus ouverts et plus collaboratifs qui font un usage proactif des ressources externes. C'est un virage important et relativement récent de l'état d'esprit des grands groupes. Ce changement majeur dans le comportement des grands groupes a non seulement permis l'émergence des startups au Japon, mais aussi a ouvert la recherche d'innovation de ces grands groupes à l'international. Ils sont à la recherche des startups prometteuses à l'étranger, ce qui ouvre vraiment la voie à des coopérations internationales. L'écosystème japonais rattrape son retard, gagne en maturité et en est à son point charnière.
Alors, dans le cadre de son cinquième plan sciences et technologies annoncé en 2016, le gouvernement japonais vise à réaliser ce qu'il appelle la société 5.0 ou Superstart Society. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus en détail ce concept de la société 5.0 et quelles en sont très concrètement les applications ?
Oui, c'est le concept mis en avant par le gouvernement depuis 2016 pour engendrer la transformation en profondeur de la société. Cela décrit une vision sociale que vise le Japon à long terme. Il s'agit notamment de mobiliser les technologies de l'Internet des objets, du big data et de l'intelligence artificielle pour répondre aux défis sociaux auxquels est confronté le Japon à l'avant-garde des autres pays. J'entends par là bien sûr le déclin démographique et le vieillissement de la population. Il ne s'agit pas donc seulement de la transformation des industries, mais de la volonté de changer radicalement la vie des citoyens. Et pourquoi 5.0? Parce que le Japon vise la cinquième révolution après la première des chasseurs-cueilleurs, la deuxième des agriculteurs-éleveurs, la troisième de la révolution industrielle et la quatrième de la société de l'information. Et puis, avec le concept de la société 5.0, le Japon affiche sa volonté d'aller plus loin que l'initiative allemande de l'industrie 4.0 ou l'initiative française de l'industrie du futur. Les applications sont vraiment nombreuses. Par exemple, en matière de mobilité, le Japon est très en avance sur le développement des voitures autonomes qui visent à réduire le nombre d'accidents causés par les erreurs humaines, diminuer l'encombrement des villes et servira également à améliorer la mobilité des personnes âgées. Sur le plan médical, à l'aide des intelligences artificielles, notamment des technologies de reconnaissance d'image et de diagnostic par imagerie médicale, les traitements médicaux les plus avancés deviendront accessibles même aux populations des régions excentrées. Et puis, avec le développement des appareils électroniques portables connectés, des services médicaux individualisés pourront être développés pour améliorer la médecine préventive. Ce sont des exemples visibles des bénéfices qu'apporteront aux citoyens dans leur vie quotidienne les initiatives et la réforme structurelle.
Je vais reprendre la question. Le Japon a récemment fait du développement de l'intelligence artificielle une autre de ses priorités pour répondre aux enjeux économiques et sociétaux que vous avez d'ailleurs en partie déjà décrits, comme la compétitivité industrielle, le déclin démographique, le vieillissement de la population. Pouvez-vous nous en dire davantage et quels sont les secteurs prioritaires retenus dans la feuille de route sur l'intelligence artificielle?
Oui, le gouvernement a adopté son propre plan national en matière d'intelligence artificielle en 2019 qui donne la priorité, comme en France, à la formation des talents, à la recherche, à la mise à disposition des données publiques, mais qui donne surtout une importance particulière à son application industrielle. Partons du constat que le Japon a pris un retard irrémédiable par rapport aux Américains ou aux Chinois, dont la conquête de plateformes de collecte de données de masse, le pays dispose quand même d'avantages significatifs pour la prochaine étape de la compétition. On sait qu'elle se jouera sur le front de l'intégration de l'intelligence artificielle, en particulier la reconnaissance d'images, dans les technologies manufacturières. À cet égard, il est à noter que les atouts du Japon résident notamment dans une palette d'entreprises compétentes et dans l'accumulation de données réelles et très précises sur le terrain, c'est-à-dire dans l'industrie. En un mot, le Japon vise les applications de l'intelligence artificielle dans les systèmes productifs. En fait, le plan national en matière d'intelligence artificielle détaille cinq secteurs prioritaires. Premièrement, la santé médicale. Deuxièmement, l'agriculture intelligente. Et troisièmement, la surveillance des infrastructures vétustes et la prévention des désastres naturels. Et quatrièmement, la mobilité. Et enfin, cinquièmement, la revitalisation des régions. Et dans le domaine de la santé et du médical, deux applications industrielles sont visées. Le diagnostic par imagerie médicale et la médecine préventive. Et pour l'agriculture intelligente, ça pourrait contribuer à améliorer la productivité du secteur, ainsi qu'à résoudre le problème majeur qui touche ce secteur, à savoir le vieillissement des agricultures. Et la surveillance des infrastructures vétustes, qui sont régulièrement la cause d'accidents meurtriers au pays, constitue un défi majeur. Nos industriels ont donc des besoins accrus en technologie de capteurs, de robotique et de diagnostic par imagerie. Puis, le Japon étant régulièrement frappé par des séismes et des inondations, les technologies de prédiction d'analyse à base d'intelligence artificielle sont elles aussi fortement convoitées. La quatrième domaine de priorité porte sur la mobilité. La pression mise par le gouvernement pour la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo a poussé tous les constructeurs automobiles japonais à se mobiliser pour la mise en service des voitures autonomes au moment des Jeux. Enfin, la revitalisation des régions est actuellement mobilisée par le projet de ville intelligente.
Alors, le GETRO donc, aide les entreprises japonaises à exporter. Le GETRO aide également les entreprises étrangères à s'implanter au Japon. Pouvez-vous partager avec nous un exemple, nous raconter le parcours d'une entreprise française, par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc le parcours d'une entreprise que vous auriez aidé à s'implanter au Japon récemment?
Je vais prendre l'exemple d'une jeune pépite que nous connaissons bien pour l'avoir accompagnée depuis 2 ans dans ses démarches pour s'implanter au Japon. Il s'agit de Prophecy, anciennement Chronocom, créée en 2014. Cette entreprise développe des capteurs du futur à l'intelligence artificielle embarquée. Ces capteurs intelligents n'enregistrent que le mouvement à une vitesse inédite jusqu'à 100 000 images par seconde. À titre de comparaison, une caméra classique n'enregistre qu'une vingtaine d'images par seconde, d'après son PDG, M. Luca Verret. Et cette technologie peut être appliquée dans les usines intelligentes, surtout dans la surveillance des lignes de production pour détecter les défaillances et dans les véhicules autonomes. Et rechercher un partenaire local et garder une proximité avec ses clients est indispensable et Prophecy a bénéficié d'un accompagnement de la part de Jetro à plusieurs niveaux. L'identification de partenaires pouvant embarquer sa technologie, les prises de rendez-vous pour les entretiens individuels au Japon, consultation d'experts de juristes en droit fiscal et corporate. Et l'entreprise a également profité d'un programme sur mesure d'invitation de la part de la préfecture d'Ibaraki au Japon.
Un accompagnement donc très complet. Pour conclure, quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs, aux entreprises françaises innovantes désireuses de se déployer au Japon ? Pas de problème.
Les entreprises japonaises étant aujourd'hui plus ouvertes qu'avant à l'international et en quête de partenaires étrangers fiables, il est vraiment important d'aller faire du business au Japon. Cela ne signifie pas toujours que vous pourrez tout de suite décrocher des contrats avec les Japonais ou nouer des partenariats. Le PDG de Prophecy reconnaît lui-même être passé par quelques expériences décevantes avant de rencontrer le succès au Japon. La patience est la recette pour réussir au Japon et cela peut prendre du temps pour gravir les nombreux échelons décisionnels, mais une fois la décision prise, la mise en œuvre est rapide. De toute façon, n'hésitez pas à venir rencontrer l'équipe de Jetro Paris qui soutient toujours à votre disposition.
Monsieur Kataruka, merci encore pour votre disponibilité. Merci aussi pour la précision des réponses que vous avez apportées à nos questions. Et effectivement, on ne peut que inviter les entreprises françaises qui souhaiteraient en savoir plus sur les opportunités qui existent au Japon à contacter le bureau de Paris du Jetro, donc près des Champs-Élysées. Merci encore et à bientôt, j'espère.
Oui, à bientôt. Merci.
Bienvenue dans l'épisode 11 de OCO Broadcast. Bienvenue dans l'épisode 12 d'OCO Broadcast. Bienvenue dans l'épisode 10 d'OCO Broadcast.